Vous êtes sur RTL.
18h48, tout de suite, la petite maison de la presse de RTL Soir, Thomas.
C'est pas mal, la petite maison de la presse. On l'appelle aussi le kiosque de RTL Soir, avec Catherine Boulay qui nous parle du monde, Christian Mélenchon qui nous parle économie, et Julien Molcou qui va nous emmener au théâtre dans un instant. On commence avec vous, bonsoir à tous les trois, Catherine.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
C'est dans le désordre ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, les auditeurs ont compris. On commence avec vous, Catherine.
On va commencer par le plus important.
Vous nous emmenez dans le comté de Carter. C'est dans le Tennessee, et là-bas on propose des stages très très particuliers aux enfants, puisqu'on leur apprend à sauver une personne qui ferait une overdose d'opioïdes.
Oui, les opioïdes, ce sont des antidouleurs qui sont dérivés de l'opium, et normalement, à 6 ans, on ne sait absolument pas ce que c'est, et normalement, on ne sait pas non plus ce que c'est qu'une overdose. Et bien là, c'est tout le contraire. La dépendance à ces médicaments, elle est telle aux États-Unis que non seulement on leur apprend ce que c'est, mais en plus, on leur apprend à ces petits à réagir si une personne fait une overdose, et en gros, à sauver un adulte avec un spray nasal qui s'appelle le Narcan, qu'on trouve on trouve son guide d'utilisation en ligne. Écoutez.
Narcan nasal spray is an emergency treatment for a known or suspected opioid.
Le spray nasal Narcan, c'est un traitement d'urgence en cas d'overdose suspectée ou avérée, et le clip nous explique tout ça.
Mais pardon, c'est pas hyper anxiogène pour des petits?
Alors pour dédramatiser.
Remarque très pertinente.
Pour dédramatiser,
la mère de famille que je suis s'inquiète.
Et je partage votre inquiétude. Pour ça, il y a toute une formation. On explique aux petits que le spray nasal, bah, c'est comme un pchit, hein, tout simplement, que c'est de l'eau à l'intérieur. On les met en situation un peu comme dans un cluedo. Donc voilà, cette formation, elle est tout à fait adaptée aux petits. Et puis ces dernières années, bah, vous en avez 600 comme ça, des enfants qui ont appris à s'en servir. On leur conseille de toujours garder un spray dans le sac à dos. Et tous les événements sont bons pour en distribuer, les fêtes à l'école, les rencontres de basket, les repas au McDo, etc. Donc il faut bien se rendre compte que les abus d'opioïdes aux États-Unis, c'est un vrai, vrai sujet, puisque ça touche tous les âges, toutes les catégories sociales, et il a déjà tué cet abus d'opioïdes 400 000 personnes donc, ces dernières années. Donc il est prescrit pour soulager des douleurs, mais il suffit qu'il soit mal dosé pour effectivement entraîner une dépendance.
Il y a beaucoup d'alarmes à travers l'Europe actuellement sur ce type de médication. Est-ce que c'est uniquement une particularité américaine ou il faut s'inquiéter en France?
Il faut s'inquiéter en France parce que là aussi, dans l'Hexagone, vous avez chaque semaine 5 personnes qui meurent d'une overdose d'antidouleurs opioïdes. Ah ouais. Chiffre de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, c'est beaucoup. Il y a plus de décès aujourd'hui par overdose par médicament opioïde qu'avec de la cocaïne ou de l'héroïne.
Et ben voilà, c'était la petite maison de la presse, on était détendu, elle a cassé l'ambiance, Catherine, avec ses opioïdes. Vous nous emmenez à Marseille, vous Christian, où l'opposition à la réforme des retraites a une conséquence assez grave sur l'activité portuaire.
Absolument, et autrement plus sérieuse que la très folklorique sardine qui
aurait bouché
le port. Cette opération s'appelle Port Mort. Elle a été entamée le 5 décembre dernier et elle projette une nouvelle fois le grand port de la Méditerranée au bord de l'abîme. Depuis 2 mois, le blocage des terminaux, le sabotage, voire même l'incendie des équipements ont fini par faire leurs œuvres. Marseille est de nouveau sur la liste noire des armateurs. Alors concrètement, ça signifie simplement que les bateaux passent au large, mais ils n'y font plus étape dans ce port. À ce jour, plus de 170 escales ont été annulées.
Ah ouais.
Est-ce que ça veut dire que le port de Marseille peut être complètement boudé par les compagnies maritimes?
Marseille est sous observation depuis des années. L'économie portuaire, c'est une économie où la compétition, elle se gagne d'abord par la confiance et la fiabilité. Or, qu'est-ce qu'on constate après ces 2 mois de blocage? Un bilan financier qui est terrible, 260 millions de pertes, c'est énorme, et une réputation qui est lourdement écornée. Par ailleurs, on découvre quand même que Marseille devient maintenant un port de second rang. Il est aujourd'hui dépassé par Valence. Le nombre de conteneurs mouvementés a reculé de 26%, quand celui de Barcelone a augmenté de 61%.
Sur ces 2 mois, là.
Depuis le début de ces opérations port mort et les installations techniques qui font l'entretien des grands navires, perdent de prestigieux clients. Et pire, les grands navires de croisière, eux, s'évaporent. 15 visites ont été supprimées.
C'est dit, peut-être qu'on noircit un peu le tableau, parce que les experts disent toujours que ce port de Marseille a des atouts uniques. Il va rebondir, non?
Vous avez raison, Thomas. On nous le promet après chaque recul. Moi, ça fait depuis tout petit que j'entends ça. Donc, en fait, si rien ne change sur le fond, le gâchis devrait se poursuivre. Selon l'INSEE, c'est assez intéressant, 1500 entreprises industrielles et commerciales sont dépendantes de la bonne marche de ce port. 41 500 salariés en vivent. Et il n'est pas sûr qu'ils aient des perspectives enthousiasmantes à court terme, hein, puisque ces mouvements de grève sont prévus pour durer encore 3 semaines.
Bon, alors, Ménanto nous a plombé le moral. Catherine Boulay nous a plombé le moral. J'ose à peine me retourner vers vous. Julia, vous nous emmenez au théâtre. Je crains le pire.
Non, non, ne craignez pas le pire. Écoutez ça. Il n'y a pas de surface belle sans une profondeur insondable. Est-ce que vous la reconnaissez?
Catherine.
Non. Catherine Fro, bravo. Et lui, vous le reconnaissez?
L'art est un mensonge qui nous sauve de la vérité.
Vincent de Dienne, exactement. Alors là, il cite Nietzsche, mais je vous rassure, ça n'est pas exactement ça leur spectacle. Ils sont réunis sur scène, et cette association de la carpe et du lapin, c'est d'ailleurs le titre de ce spectacle, est une réussite totale. Pendant 1h30, Catherine Fro et Vincent de Dienne nous ouvrent les pages de ce qui pourrait être leur carnet de bord, leur journal intime de la culture, et mis bout à bout, ces extraits de textes, de poèmes, de chansons complètement désuètes forment un cadavre exquis, tout à fait exquis. C'est difficile à dire exquis, surtout deux fois. C'est par un prologue que s'ouvre le spectacle. Un prologue à la façon de Vincent de Dienne. Un prologue pour nous expliquer qu'il n'y aura pas de prologue. Et bien déjà, ces 5 premières minutes-là, nous mettre dedans, on n'a plus jamais envie que ça s'arrête. Et d'ailleurs, ça ne va plus s'arrêter. Le rideau s'ouvre, ils sont là tous les deux. Elle est la reine, lui, il est un peu son bouffon. Parfois, ils jouent un couple. Ils s'offrent même le luxe de rejouer la scène la plus célèbre du dîner de cons. Et c'est elle, Catherine Fro, qui est François Pignon. Mais non. Comme ça.
Vous aimez les allumettes?
Le balai à la main. C'est pas celle-là, c'en est une autre. Et puis parfois, bah voilà, ils viennent face à nous, seuls, chacun leur tour, et ils chantent, ils déclament, ils racontent. Le décor derrière est complètement foutraque, on comprend pas très bien. Il y a un piano dans le fond avec un pianiste, il y a un portant de vêtements qui sert à peine, il y a un tapis roulant qui roule vraiment, et puis il y a des cotillons dorés, et des cotillons dorés qui tombent en pluie. Jamais de ma vie, je n'avais vu une pluie de cotillons qui tombait aussi longtemps, aussi longtemps, aussi longtemps, c'était tellement beau. J'ai adoré,
je suis très inquiet. Maintenant, ça donne très envie.
On comprend un petit peu, on s'y perd pas un peu de cette danse.
Ouais. Ne cherchez pas de lien. Mais ils ont raison de nous le dire, parce que je vais vous dire, il n'y a que sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'est un peu comme le kiosque, il ne faut pas chercher à comprendre.
Il n'y a que là-bas que vous allez croiser Gwyneth Paltrow, Christiane Taubira, Picasso, le général de Gaulle, Bulogier, Jacques Villeray, Bobby Lapointe, Pierre Palmade, Marguerite Duras et même Nicole Croisillon.
Appelle-moi,
alors,
dis-moi que tu m'aimes.
Alors la carpe, c'est elle, le lapin, c'est lui, et le bienheureux, l'attendri, le subjugué, eh ben c'est nous, c'est le public. C'est du mardi au dimanche au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est exceptionnel. Allez-y.
Ça s'appelle La carpe et le lapin avec Vincent de Dienne et Catherine Fro, et l'attaché de presse s'appelle Julien Moulcon. Merci à tous les trois. La météo avec vous, Patricia Charbonnier. Bon, demain c'est de